Vas-y là pour voir.
1, 2, 1, 2.
Voilà, on est sur la 1, c'est bon.
Voilà.
Je vais effacer formidable. Le reste.
Ah. Alors, on va commencer. Alors, aujourd'hui, on est en direct.
Reste assez près quand même.
Aujourd'hui, on est en direct du Petit Nice sur la plaine à Marseille. On fait la première interview en live avec, bien sûr, une invitée exceptionnelle qui est Annie de Melting Pod. Alors, Annie a fait beaucoup parler d'elle involontairement. Par le biais de Luc Saint-Elly, qui l'a invité sur son podcast. Et donc, elle nous a fait le plaisir de nous recevoir. Et alors, on est dans un café, donc il y a peut-être un petit peu de bruit autour. Mais c'est le concept d'Annie, en fait. On est en plein dans Melting Pod. Alors, Annie, bonjour.
Bonjour.
Annie, comment tu as eu l'idée de créer Melting Pod au départ ?
Ben, c'était une histoire qui a démarré en septembre 2004, en fait, parce que j'étais auditrice du Rock'n'Roll Geek Show, parce que Michael Butler, qui a commencé ce podcast, est un ami à moi depuis de longues années. Et j'ai trouvé ça très intéressant, mais pendant plusieurs mois, j'étais supportrice, et un jour, j'ai eu envie qu'il passe du Rock'n'Roll de Marseille. Il a eu le malheur d'hésiter quelques secondes. Ça a été suffisant pour que je prenne la mouche et que je dise « Mais moi, le podcast, je veux le faire toute seule. » Donc, j'étais un peu embêtée au départ parce que j'avais aucune idée, ni d'Internet, ni du son, ni de rien. Donc, je me suis retournée vers la France en cherchant sur Internet s'il y avait des podcasts en France. À ce moment-là, j'ai découvert Bertrand Lenôtre et Le Podcasteur. On a eu une première petite discussion assez technique sur l'achat de matériel. Il m'a parlé de Luc Saint-Elly. Donc, deuxième coup de téléphone, c'était Luc Saint-Elly, qui lui était très enthousiaste à l'idée qu'il y ait enfin une femme qui se lance dans l'aventure. Donc, il m'a dit « Occupe-toi du son, je m'occupe d'Internet ». Bon, ça a tombé très bien parce que j'y connaissais rien. Donc, lui m'a aidé à monter mon site Internet. Et puis, j'ai passé un petit moment à galérer sur le son. Et puis un jour, le jour où je te disais qu'il a neigé à Marseille, c'était un signe fantastique pour démarrer.
C'est rare, hein, en plus.
Voilà. Donc c'est le 28 février 2005. Je me suis dit, c'est cette nuit. Donc on a fait le site dans la nuit. Et le matin, j'ai commencé à bidouiller les logiciels, à acheter une carte son. On m'a prêté un micro. Et une semaine après, j'étais partie sur le premier podcast de Melting Pod.
Au début, Melting Pod, en fait, c'est Luc qui a contribué pour beaucoup dans ta création de podcast au départ. Parce que techniquement, tu n'étais pas du tout. Tu connaissais rien au podcasting. Du côté technique, tu connaissais en tant qu'auditrice. Tu as galéré beaucoup. Tu utilises quoi pour faire tes podcasts ?
C'est-à-dire qu'au niveau son, ce n'est pas vraiment Luc qui m'a aidé parce que lui, il était aussi au démarrage à ce moment-là. Mais bon, j'avais pas mal d'amis musiciens à Marseille qui travaillent déjà en informatique musicale. Donc c'est eux qui m'ont aidé à trouver les logiciels et un peu à me donner mes premières heures de formation. Enfin, les heures, ça a duré une heure et demie. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui n'était pas à Marseille, donc après, ça s'est passé par téléphone. Et en fait, j'ai travaillé à minima, quoi, avec Cubase, et le peu qu'on m'a appris, j'ai passé plus de temps, à vrai dire, par la suite, à pas rater ma prise de son. Parce que c'est ce qu'on me disait, si tu rates pas ta prise de son, tu as beaucoup moins de travail après, donc j'ai essayé d'enregistrer juste dès le départ. Et aussi d'écouter ce qu'on me disait, quand on me disait tu fais du texte d'abord, enfin tu fais du texte et sur une piste et de la musique sur une autre, parce qu'au départ je faisais tout sur la même piste.
Oui, c'est problématique.
Voilà, donc si tu rates tout, tu recommences à zéro.
Ça c'est un conseil à donner à tous ceux qui font à peu près le même genre de choses que toi, il faut absolument enregistrer sur des pistes différentes. Parce que quand on loupe, c'est foutu pour tout.
Le premier podcast, je l'ai fait comme ça d'ailleurs. Le numéro 1, il est sur une seule piste. Je l'ai recommencé, je ne sais pas combien de fois.
Alors dans Melting Pod, on trouve de la musique, du rock. Parce que c'est un peu la spécialité de Melting Pod. Et on découvre Annie. Et Annie nous parle en anglais. Alors pour un podcast français, parler en anglais, c'est surprenant, non ?
Ben oui, mais alors il y a une petite blague à Marseille qui dit « Quelle est la deuxième langue la plus parlée à Marseille ?» Tu sais ce que c'est ?
Non, mais alors on n'est pas tous marseillais en plus à écouter. Alors c'est quoi la deuxième langue ?
La deuxième langue la plus parlée à Marseille, c'est le français. Et la première langue, ce n'est pas l'anglais, mais on ne dit pas dans l'histoire quelle est la première langue.
C'est un mystère, c'est à vous. Venez découvrir Marseille, vous découvrirez la première langue marseillaise.
Donc ça veut dire par là que toutes les autres langues du monde sont les premières langues à Marseille parce que c'est un melting pot de communautés. On, On a longtemps galvaudé Marseille en disant Marseille, capitale de l'Algérie. Et par la suite, d'autres gens ont dit, mais pas du tout, c'est la première communauté comorienne. Bon, toi, il semblerait dire que c'est la première.
C'est la première ville corse.
Voilà, donc je pense qu'on peut faire le tour du monde avec ça.
Ouais, à Marseille, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de choses différentes. Toi, tu le melting pot, c'est le rock. C'est pour ça qu'on est à La Plaine, parce que La Plaine, c'est un peu un grand endroit de création et de passage de groupe de rock à Marseille.
Là, il y a la petite amie du chanteur, du guitariste des Neurotic Swingers, par exemple.
Voilà. On sait people, le baron, on est que du people.
Non, mais anglais, il faut que je précise, c'est que anglais, étant donné que j'avais commencé à écouter des podcasts américains, je voulais avoir un auditoire, a priori, élargi au monde entier, tout simplement. Et les gens dont je voulais faire la promotion, qui étaient donc des musiciens marseillais, étaient tout de suite tentés par l'expérience parce que, bon, se faire connaître en France, ils sont capables de le faire. S'exporter à l'étranger, il y en a très peu qui arrivent. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir distribuer aussi ce son-là ailleurs. Et il est bien connu que dès qu'on a passé l'océan d'un côté ou de l'autre, que ça soit la mer, bon, on ne parle plus du tout français, quoi qu'on en dise. Le français, la francophonie, c'est gentil, mais ça ne va quand même pas très loin. Et mais, là, on pourrait inverser l'interview. Ouais. J'en arrive à la petite histoire que tu m'as racontée sur l'ONU.
Ouais.
J'aimerais bien que tu me la re-racontes, par exemple.
Ah bah, je vais te la re-raconter. Alors, en fait, parce que là, on fait une double interview, parce que Annie a décidé d'utiliser des passages de cette interview pour son podcast. Alors, l'anecdote sur l'ONU. Donc, pendant très longtemps, à l'ONU, le français était la langue officielle. Et dans la diplomatie internationale, le français était la langue officielle. Et en fait, le gros problème du français, et des Français en général, c'est que si on ne parle pas le français de manière exacte et excellente, les gens ont tendance à se moquer. Et donc pendant très longtemps, il y avait beaucoup de pays qui étaient francophones, des pays d'Afrique, etc. Mais il y avait beaucoup de pays comme les États-Unis et l'Angleterre qui étaient obligés de parler en français à l'ONU et dans la diplomatie en général, qui se sont très vite détachés du français, y compris des pays francophones d'Afrique, parce que pendant très longtemps, à chaque fois qu'ils parlaient à l'ONU en public, les Français disaient « c'est nul, c'est scandaleux, ils ne savent même pas parler français ». Ah, un hélicoptère. C'est nul, c'est scandaleux, ils ne savent même pas parler français, ils n'ont qu'à pas parler français. Et donc, au fur et à mesure, l'anglais a pris le dessus dans la diplomatie, parce que les Anglais et les Américains, ils ont une autre optique, c'est-à-dire que pour eux, quelqu'un qui fait l'effort de parler en anglais, c'est quelqu'un qui essaye de se mettre à leur niveau, qui essaye de faire passer des idées, et ils le respectent déjà par avance. Alors, ils peuvent avoir un anglais de collège, d'enfant, ils peuvent avoir peu de vocabulaire, ils peuvent commettre des erreurs grammaticales. Pour eux, ils n'en ont rien à foutre. Ce qu'ils aiment, c'est quelqu'un qui fait l'effort de parler en anglais dans leur langue. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre de pays ont commencé à vouloir utiliser l'anglais dans la diplomatie. Et aujourd'hui, à l'ONU, le français est la langue officielle de la diplomatie dans l'absolu, mais elle n'est plus du tout utilisée. On utilise l'anglais pour communiquer en permanence.
Voilà, mais donc c'est une belle illustration de ce qui se passe en ce moment en France. C'est-à-dire, quand on me demande pourquoi je parle, j'ai entendu sur ton podcast,
sur mon podcast,
un anglais avec un accent à couper au couteau.
Avec un accent marseillais à couper au
couteau. Non, il n'a pas dit marseillais, il a dit, il me semblait, non ?
Ah, je ne sais pas, alors c'est peut-être en off qu'il a dit, il n'a pas voulu se fâcher avec les Marseillais.
À couper au couteau. J'ai tout de suite fait ma petite enquête auprès de mes fidèles auditeurs en Australie, aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre, qui m'ont dit, mais tu rigole, mais ton accent, il est très sexy. Alors, comme c'est des hommes, on pourrait douter. Non, mais j'ai quand même approfondi la question. Par exemple, Michael Butler, je lui ai posé la question hier soir. Je lui ai dit, oh, il paraît que j'ai un accent ridicule. Et il y a eu un grand silence. Il m'a dit, ridicule ? Je ne comprends pas ta question. C'était la vraie illustration de ce qu'on est en train de dire. C'est que ça ne lui vient pas à l'esprit qu'on puisse critiquer quelqu'un qui parle en anglais en disant ton accent est ridicule. Ça n'a aucun sens pour un Américain.
Alors juste en plus pour ton information, les Américains craquent totalement pour l'accent français quand tu parles en anglais. C'est-à-dire leur rêve à eux, c'est de réussir à parler anglais avec l'accent français. Mes profs, ils trouvent ça très sexy. Ils adorent.
Oui, mais bon, cela dit, l'autre question auprès d'un Australien était la même, quoi. Les Australiens m'ont dit, mais non, ça va, bon, c'est perfectible. Moi, je sais personnellement que je peux faire beaucoup mieux. Mais l'important, c'était de savoir si, est-ce que j'étais compréhensible.
Alors, je peux te rassurer, pour un Français, tu es compréhensible déjà, c'est déjà pas mal.
Non, en plus, des fois, on me dit, tu parles lentement. Mais je dis, je parle aussi lentement parce que moi, j'ai beaucoup d'amis français qui m'écoutent et qui font un effort terrible, qui ont été les premiers à me dire, non, mais quand même, tu exagères, pourquoi tu le fais en anglais?
Et pourquoi pas le faire bilingue?
Mais mon idée, c'est de travailler... Depuis le départ, c'est ça, c'est l'intuition, la spontanéité. Donc si j'ai besoin que ça soit en français, parce que c'est quelque part obligatoire, là, dans les derniers podcasts, il y a des gens que j'ai interviewés, ils m'ont répondu naturellement en français, et j'ai pas eu envie de les ennuyer en leur disant « vas-y en anglais maintenant ». Je sais pas si tu as entendu, il y avait une déclaration assez politique d'un intermittent du spectacle. Bon, il était lancé, ça aurait été stupide que je lui demande de faire ça en anglais. Donc j'ai récolté sa parole en français, et je l'ai même pas traduite pour les anglophones. Je me suis dit « bon, ben tant pis, c'est... » Ils entendront du son, ils ne comprendront pas, mais le problème des intermittents du spectacle aussi, il est assez localisé, donc ce n'est pas la peine non plus d'élargir le débat. Par contre, les Français, c'est peut-être intéressant qu'ils entendent ce discours. Donc, par la suite, je ferai peut-être des interviews. On m'a fortement reproché d'avoir interviewé David Lafort, qui est un chanteur de chansons françaises, qui prend beaucoup de plaisir avec la langue française, qui fait beaucoup de jeux de mots dans ses textes. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, David, c'est en anglais. Il me dit, pas de problème. Je lui ai dit, mais ça va pour toi l'anglais? Il me dit, non. Je lui ai dit, bon, mais c'est pas grave, moi non plus. Donc on verra comment on se débrouille. Et puis c'était assez drôle parce que des fois, il ne comprenait pas mes questions. D'habitude, j'ai juste le passage obligé, c'est de bien poser ma question quand j'ai en face de moi après un étranger. Donc lui, après, il parle bien anglais normalement. Mais là, j'avais affaire à un Français qui parlait aussi mal que moi.
Alors, tu as de la chance, moi, je parle pire que toi.
Ah. Mais toujours est-il qu'on s'est bien amusé. Et lui, il a beaucoup aimé cette interview. Et quand elle a été diffusée, des gens m'ont reproché ça en me disant, mais on a perdu l'essentiel de l'âme de David Lafort. Il avait sans doute des choses très intéressantes à dire en français. C'est incroyable. Pourquoi tu l'as interrogé en anglais? Je l'ai revu depuis. Je lui ai dit, écoute David, il y a des fans là sur mon podcast. Il faudrait qu'on la refasse en français. Et il m'a dit, ouais. Et ça l'intéressait moins, visiblement.
Tes fans, ils ont l'air très râleurs, en fait.
Les Français?
Oui.
Les Français, ils sont très critiques. Une fois de plus, c'est vrai que... C'est bien de toute façon que les gens critiquent, puisque ça fait avancer quand même les choses de donner une critique, qu'elle soit positive ou négative. Et c'est vrai que les Américains, ils ont la tendance d'éviter le problème souvent parce qu'ils ne veulent pas blesser. Alors ils te disent « great show, good job, nice job, keep it up the good work ». Et tu lis ça partout et quelque part c'est tellement stéréotypé comme réponse que ça t'amène rien. Alors c'est vrai que ça fait plaisir qu'il y ait un comment de plus sur le site, mais tu n'arrives pas trop à avancer. Par exemple, Mike, hier, je lui disais, mais dis-moi si c'est pas bien, tu écris-moi un comment négatif. Et lui, il le vit tellement mal des fois qu'il ne se sent pas de le faire pour d'autres. Et c'est vrai que quand tu démarres un podcast aussi, souvent, le temps que tu prennes tes marques et que tu sois un peu sûr de toi, si tout de suite d'entrée tu te fais démolir, ça doit être assez difficile, quoi.
Alors, à propos de critiques, puisqu'on est dans les critiques, il y en a qui t'ont reproché, on en parlait hier, il y en a qui t'ont reproché, enfin à toi, mais c'est bizarre parce que c'est une initiative de Luc au départ. Et donc, mais tu as reçu toi des mails pas forcément très sympathiques. L'initiative de Luc de promouvoir ton podcast sur iTunes. Alors, sachant que, on ne sait pas pourquoi, hein, dans les bizarreries d'iTunes, ton podcast, qui est un podcast en plus en anglais, n'est pas dans le répertoire d'iTunes. Et donc, on ne peut pas t'écouter directement sur iTunes. Il faut s'abonner en prenant ton feed, etc., manuellement. Donc, Luc s'est dit, je vais faire bénéficier de ma notoriété, puisque Luc est deuxième ou troisième, enfin, ou quatrième, il navigue dans les hautes sphères de iTunes. Et il s'est dit, moi, je fais un podcast toutes les trois semaines. Donc, si, au lieu de laisser le vide et mon espace pour rien, j'invitais Annie. Et donc il l'a fait, et donc il a proposé sur son feed ton podcast, il a proposé 2-3 numéros, et là il y a eu une avalanche de critiques, alors à Luc, mais à toi aussi, alors donc c'est bizarre, en plus que toi tu as reçu des critiques de Luc, mais c'était, moi j'ai trouvé ça un peu étrange, toi tu l'as vécu comment?
Pour tout dire, j'étais stupéfaite. Parce que quand Luc m'a proposé de diffuser mon podcast, au début j'étais hésitante parce que je disais, écoute, je préférais que tu m'aides à être listée sur iTunes parce que tant qu'à faire, je préfère être listée moi-même. Et puis il me dit, mais écoute, je fais tout pour, mais ça va être long. Donc pendant ce temps-là, autant profiter de ma place sur iTunes pour diffuser le tien. Donc à la fin, j'ai dit ok. Il me dit, enregistre-moi un petit fichier de présentation en expliquant l'histoire, ce que j'ai fait. Donc les gens étaient quand même avertis par ce petit fichier de la situation. Luc m'a dit, j'arrive pas à coller les deux fichiers MP3 ensemble, donc ils ont pas été. Il fallait les charger l'un après l'autre. Mais disons que le premier podcast, ça s'est plutôt bien passé puisqu'il y avait des bonnes critiques sur le site de Luc. Et puis j'ai eu des bonnes critiques aussi des nouveaux auditeurs qui sont arrivés sur mon site en disant, tiens, on t'a trouvé sur le site de Luc, c'est super, on aime Melting Pod, donc tout marche. Et c'est au deuxième que j'ai pas trop suivi l'affaire dès le départ. Et puis quand j'ai ouvert le site de Luc, j'ai vu les 7 commentaires qui étaient donc le duel Luc-Olivier. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est bizarre. Alors j'ai appelé Luc pour lui dire, mais attends, mais si ça te pose des problèmes de me diffuser, arrête, quoi, on va pas partir dans une histoire pareille. Il me dit, mais pas du tout.
C'est pas le genre de Luc. Hein.
Voilà, il m'a dit, mais c'est hors de question que j'arrête. Et je ne sais pas si c'était concomitant, je ne sais pas si c'était dû à l'histoire de Luc. J'ai reçu un email. Alors là aussi, des fois, il faut être un peu raisonnable. Il y en a eu un, mon premier email d'insulte. De quelqu'un qui avait sans doute rien d'autre à faire et qui, en plus, c'est toujours pareil, c'est des gens un peu anonymes, quoi. Ils mettent des espèces de sigles qui sont incompréhensibles, donc je ne sais pas du tout qui c'est, qui disait que c'était. Commencé en disant, est-ce que Marseille est anglophone? Je ne le savais pas. Donc en fait, la critique était très axée sur l'anglais. Elle n'était pas tellement axée sur l'histoire de Luc. Hein. C'était deux choses différentes, je pense. Mais elle est arrivée à ce moment-là et il me disait que c'était une dégénérescence, une compromission que de parler en anglais à Marseille. Vive la France libre et la francophonie. De Gaulle, réveille-toi. Voilà, tout est dit. Quand on a reçu ça, bon, je l'ai jeté à la poubelle assez rapidement. Après, j'ai regretté, je me suis dit que j'aurais pu le lire sur mon podcast. Enfin, en gros, c'est ça. Mais ça m'a donné des idées nouvelles pour parler encore d'autres langues que le français, qui est qu'au deuxième langue quand même. Non, mais personnellement, j'ai pas eu d'email chez moi critiquant la position de Luc. C'était simplement... d'avoir lu ce qui s'est passé sur son site et puis d'avoir après écouté ton podcast et l'interview de Pom Pom
de Stuff.
Stuff, ouais. Pom Pom Boy.
Pom 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 Pom.
Voilà. Et bon, lui, quand il a dit d'entrer, j'aime pas son podcast parce qu'elle parle en anglais, je trouvais ça un peu raide. Enfin, je me suis dit, bon, il aurait pu quand même l'écouter pour savoir si le contenu aussi était idiot parce que c'est une première critique un peu légère, quoi.
Ouais, non, mais Stuff, ce qui l'a bloqué, c'est. Et, alors il a comparé ça à du spam. Luc Saint-Élie a réagi de manière assez forte parce que lui il a été un peu à son tour choqué par les propos de Stuff parce que pour lui c'est pas du spam du tout. En plus ça laisse les gens le choix de le télécharger ou non. Et en plus il a critiqué le fait que tu parles en anglais, alors un anglais pas parfait, mais c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est une mentalité quand même très française, le fait de vouloir parler une langue parfaitement. Et en plus, c'est la personne qui t'a écrit sur Marseille en disant je savais pas que Marseille était anglophone, ça doit être une personne qui connaît pas du tout Marseille, parce que Marseille c'est un mélange de cultures, c'est ce qui a toujours fait la force de Marseille. C'est la première ville de France en termes d'histoire, elle a 2600 ans, on est la plus vieille ville de France, et que Marseille a été une ville grecque, a été une ville romaine, a été une ville après indépendante, ça a été gauloise,
libre.
C'était une des rares villes libres au monde.
Donc, je dis qu'il y a une forte tradition d'indépendance dans le sang. Des Marseillais qui sont des gens qui viennent du monde entier, il faut le dire aussi, c'est qu'on peut rarement remonter sur 3 générations de Marseillais. Les gens, très rapidement, ils ont au moins leurs grands-parents qui viennent d'ailleurs. Moi, mes grands-parents viennent d'Italie, les grands-parents de mes amis viennent d'Espagne. Il y a d'autres gens qui sont directement arrivés du Brésil, qui arrivent d'Algérie, qui arrivent... d'Allemagne, qui arrive de Suède. Je veux dire que
c'est vraiment c'est une capitale internationale, Marseille.
Oui, puis c'est ce que tu dis, c'est qui fait la force, c'est que bon, on est tous des enfants croisés, recroisés avec des sangs mêlés et qui donnent une appartenance qui est à Marseille. Et quand on me dit, j'ai commencé mon premier podcast avec ça parce qu'il y avait j'avais lu une critique sur internet d'un groupe américain qui était venu à Marseille et qui avait chanté très élégamment première chanson du concert, Take Me Away to Marseille, qui est une chanson des Angels, un groupe australien. Donc moi j'étais très émue que ces Américains aient fait l'effort de mettre ça à leur répertoire alors que c'était pas un morceau à eux, en introduction pour saluer la ville. Ils avaient sans doute pas dû le jouer ailleurs dans leur tournée. Donc je m'étais dit tiens, je vais leur mettre un mot sur leur message board de leur site. Et le jour où j'ai pas réagi tout de suite, j'ai dû mettre 3 semaines à me mettre en place pour faire ça. Et quand j'ai ouvert leur site, sur la page d'accueil, ils venaient d'écrire un article sur Marseille en disant « On arrive de notre tournée européenne, on était à Marseille. » Et là, il fait un topo sur la ville qui est le topo classique d'un Américain à Marseille, c'est pas un Américain à Paris. Et donc, les crottes de chiens, les voitures garées en travers qui empêchent de passer, les cafards, les rats. Donc lui, il a vu tout ça multiplié par 1000. Ouais. D'ailleurs, il devait être presque marseillais dans le jargon pour exagérer comme ça. Et il terminait en disant « Et notre tour manager qui est parisien nous l'a bien dit, Marseille n'est pas une partie de la France. » Donc j'ai rebondi en disant « Il a raison. Marseille n'est pas une partie de la France. Marseille, c'est une planète. La planète Marseille, c'est pour ça que je parle bien d'une planète qui est raccrochée, un peu comme un satellite à la France. Mais qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que si c'est ce qu'on nous reproche, on s'en glorifie. »
Et pour beaucoup de Marseillais, de toute façon, il y a Marseille et le reste de la France. Hein. Tout ce qui est au-dessus d'Aix-en-Provence ou Avignon, c'est autre chose.
On dit Valence quand même.
Ah, Valence parfois. Valence, c'est un peu plus haut.
Mais Valence, c'est le nord.
Et alors, dans Melting Pot, c'est que du rock en fait.
Non.
Ah, putain, j'ai dit une connerie.
Non, là aussi j'ai voulu, mais moi j'ai voulu me garder toutes les portes ouvertes, c'est-à-dire que l'anglaise était le monde entier, les sujets ça pouvait être tout ce qui me passait par la tête, et la musique c'était d'abord la musique des gens que j'aime. Et je trouve que j'aime particulièrement le rock'n'roll, donc j'ai mis beaucoup de rock'n'roll dès le départ, mais j'ai annoncé que dedans il y aurait d'autres musiques. J'ai déjà mis des musiques brésiliennes, des musiques arabes, et comme j'ai des amis musiciens qui jouent ces genres de musique, je continuerai à en mettre, et c'est que le début. Mais disons que les musiques orientales à Marseille sont importantes. Je ne suis pas trop hip-hop, mais bon, il suffit que je rencontre un groupe de jeunes motivés qui a envie qu'on lui passe sa musique sur une radio, je mettrai du hip-hop. Mais mon plaisir est plus orienté vers le rock'n'roll, ça c'est certain. Mais j'éprouve du plaisir à écouter de la musique des gens que j'aime. À partir de là, souvent ici à Marseille, comme tu dis, on est dans un endroit people ici. C'est rigolo parce que en fait, le bar des maraîchers qui est juste à côté, c'est encore mieux pour rencontrer du monde dans le milieu musical. Mais c'est vrai que souvent pour moi, c'était les lieux où je rencontre des gens. J'apprends par la suite qu'ils font de la musique. Et des fois, il se passe des mois, parfois des années, avant que j'aille à un de leurs concerts. Donc on est amis avant que je sache qu'ils font comme musique. Si, comme David, au bout d'un an ou deux, quand on s'est rencontrés et faire des fêtes ensemble, j'ai entendu qu'il faisait de la chanson française, c'était pas mon truc. Mais c'était David. Et puis entre-temps, je connaissais tout le groupe. Donc c'était des amis qui allaient faire un concert à tel endroit. Donc on y va. Et maintenant, quand ils jouent, on va les supporter. Quoi. C'est plus dans cet état d'esprit-là que je mettrai de la musique sur Melting Pot. Quoi. C'est plus du relationnel d'abord et de l'affectif. Et ensuite, le style musical.
À Marseille, il y a beaucoup, alors de plus en plus peut-être, ou alors c'est que c'est de plus en plus médiatisé. Il y a de plus en plus d'artistes, alors soit dans la musique, soit dans la peinture, soit dans ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est qu'il y en a plus maintenant, ou est-ce qu'aujourd'hui, Marseille a une image qui change, qui évolue, par le biais d'initiatives, mais Melting Pot peut faire partie des initiatives qui font changer un peu l'image culturelle de Marseille?
En fait, la mutation s'est amorcée dans les années 90. Moi qui suis née à Marseille, donc c'était pendant longtemps une ville réputée plutôt ouvrière, industrielle, sans culture. La culture et les intellectuels, ils étaient basés à Aix. Donc il y avait une espèce d'antagonisme entre ces deux villes où Aix était assez méprisant sur Marseille et Marseille, à sa manière, méprisait Aix. Et puis, il y a eu une perte, Aix est tombé en perte de vitesse, bien qu'ils ont un très gros noyau de jeunesse avec toutes les universités. Je pense que ça vient des politiques municipales successives. Ils ont perdu leur pôle d'attraction culturelle. Et Marseille l'a saisi au moment, je pense, de la première biennale des jeunes créateurs, qui était en 89. Pour moi, en tout cas, ça a été le déclic parce que dans toute la ville, il y avait des manifestations partout. Et je me suis rendu compte que c'est à ce moment-là qu'il y avait des groupes de rock de partout. Il y avait des groupes de théâtre de rue, il y avait du théâtre, des petits théâtres qui s'ouvraient dans des petits locales ridicules. Et une vraie vie culturelle qui s'est installée. Ça attirait d'autres artistes parce que la plupart de ces artistes ne sont pas originaires de Marseille. Ils ont aimé le côté friche à investir dans la ville parce qu'il y avait des locaux abandonnés dans toutes les zones industrielles de Marseille qui étaient assez faciles d'accès avec des loyers très faibles et puis très souvent des aides de la ville pour les réinvestir avant qu'ils tombent en ruine. Donc c'est comme ça qu'il y a eu les abattoirs, les anciens abattoirs de la ville qui ont été investis par des compagnies théâtre de rue, des compagnies d'art plastique. La friche de la Belle de Mai, le théâtre de la Minoterie, tout ça ce sont des lieux culturels dans des friches industrielles. Et il y a eu une espèce de boom pendant 10 ans. Disons qu'après ça a un peu chuté parce qu'il y a eu des restrictions budgétaires. La plupart de ces compagnies vivent quand même avec des subventions parce que le théâtre de rue ça vit que d'aide publique puisque les spectacles sont gratuits. Dans le milieu rock, les concerts qui ont lieu dans les petites salles de Marseille, c'est des tarifs très abordables pour que justement les gens découvrent la musique. Mais ça induit des cachets pour les artistes qui sont très très faibles. Donc si à un moment donné, ils n'arrivent pas à commercialiser leurs produits, il y a eu un nombre incalculable de groupes qui ont périclité, qui ont disparu. Et c'est ce que je racontais un peu dans Melting Pot, c'est que moi, ces gens-là, je les ai connus en 90, ils ont fait des démos, ils ont fait des enregistrements qui ne sont jamais sortis en disque. C'était vraiment de grande qualité. C'était un petit travail de mémoire que de dire, bon, c'est pas une promotion puisqu'ils n'existent plus, mais ils ont existé, c'est des archives musicales de la ville. C'est dommage aussi, s'ils n'ont pas existé, certainement c'est parce que c'était des puristes qui ne voulaient pas faire de compromis avec la musique, ils ne voulaient pas faire de la musique commerciale, ils n'étaient pas dans le créneau de ce qu'on diffuse justement à la radio. Parce que c'était une question qu'on m'avait posée à Radio France en me disant « qu'est-ce que vous pensez, vous faites de mieux que la radio ?» Je leur avais dit ben, « je passe de la musique que vous ne passez pas vous » parce qu'honnêtement, quand on aime la musique et qu'on écoute la radio, moi je zappe sans arrêt et je ne trouve rien. Quoi. Mon oreille est accrochée par rien, je me dis « c'est quand même monstrueux ».
C'est pas un des intérêts du podcasting justement ?
Ben, je pense que dans le podcasting, il y a beaucoup plus de qualité musicale parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui font comme moi, c'est-à-dire qui passent la musique qu'ils aiment. Donc déjà, à partir de là, elle est triée, elle est présentée avec du caractère. Et il y a un élan qui est donné, qui n'est pas donné dans la radio. La radio, le disque tombe, il a été payé, il faut le passer 40 fois dans la journée, on abrutit les gens avec, c'est bon, c'est pas bon, on s'en fiche, quoi. Et je sais pas, il y avait une époque, j'arrive plus à me rappeler cette radio, c'est une radio parisienne, justement, qui a été remplacée par le Move. Tu te rappelles pas le nom de cette radio ? Oh, zut. Ben, c'était une radio qui passait de la musique toute la journée, qui donnait juste les titres. Et des fois même, ils demandaient à ce qu'on téléphone si on était intéressé pour avoir le titre. Ils passaient vraiment que de la musique, il n'y avait aucune pub, rien. Et c'était tout azimut, c'était musique classique, jazz, rock, world, hip-hop. Et c'était de qualité à chaque morceau, c'était un vrai plaisir. Ils l'ont supprimé, ils ont mis le Move qui était la radio rock. Et puis il suffit d'écouter pour voir que pour moi c'est pas du rock quoi. Ben c'est triste que...
Il tombe un peu dans le commercial, en fait.
Ouais, c'est ce que les musiciens eux-mêmes appellent Radio FM. Donc c'est bien dommage.
Et alors à Marseille, puisque de Melting Pod parcourt Marseille, mais parfois tu sors de Marseille quand même.
Oui, je sors de Marseille sur des coups de cœur. C'est-à-dire, là, je suis sortie de ma tanière pour aller à Saint-Étienne voir les Saints que j'avais rencontrés à Marseille.
Alors à Marseille, tu recommandes quoi comme lieu pour venir écouter de la bonne musique, de la musique qui passerait dans Melting Pod ?
Ben, moi, c'est des sortes de lieux qui sont mes maisons secondaires. C'est-à-dire que ben, malheureusement, en plus, ils ferment presque les uns après les autres pour des problèmes de loi sur le bruit, de voisinage. Mais pour citer quand même la première, parce que dans le devoir de mémoire, il y avait quand même la maison hantée. Qui était le premier lieu à promouvoir le rock à Marseille. Ils se sont vus interdire les concerts, donc ils continuent en tant que bar-restaurant. De temps en temps, le jour de la fête de la musique, ils ont le droit de faire des concerts. Ils s'en privent pas. C'est très très fort. Et la machine à coudre, qui est un autre lieu dont je parle souvent parce que je dis que c'est le cœur du punk rock'n'roll. C'est vrai que Philippe a un très bon choix musical, donc on peut y aller les yeux fermés. Malheureusement, le voisin du dessus n'a pas les oreilles fermées et lui il supporte très mal les nuisances sonores, et c'est compréhensible, c'est des vieux immeubles du centre-ville, c'est pas fait pour ça. Donc ils essayent de cohabiter, et cette année c'était un peu difficile puisqu'il n'y avait plus de concerts rock toute la semaine. Il n'y avait que le samedi, et le samedi souvent pour des groupes qui font des tournées internationales, la machine à coudre c'est pas un lieu suffisamment intéressant au niveau des cachets pour s'arrêter un samedi. Le samedi pour eux c'est la grosse journée, donc souvent en Espagne ou en Italie ou en Allemagne, les tour managers arrivent à obtenir des cachets bien plus importants que Marseille, donc ils ne s'arrêtent pas à Marseille le samedi. Ce qui fait que on est tombé dans une production plus locale de rock, mais soutenu quand même, il faut les citer, par l'association Ratacan, qui est une association de musiciens à Marseille, de rock, qui font eux-mêmes de la promotion d'autres groupes de rock qui ne sont pas dans le circuit commercial. Et c'est eux qui ont fait un peu la vie rock'n'roll de cette année 2005 en essayant de trouver d'autres salles. Ils ont organisé des concerts à Aubagne, ils ont organisé des concerts à l'Escale Saint-Michel, au Trolleybus, sur le Vieux-Port, mais... Le cœur n'y est pas trop, quoi, parce que c'est bien quand il y a un lieu qui est habité par des gens qui défendent vraiment cette musique, ce qui était le cas de la machine à coudre. Bon, il y a le Balthazar, qui est un lieu plus melting pot, puisque eux, ils défendent justement toutes les couleurs musicales sans restriction. Mais à partir de là, ils suivent quand même plus ce qui est la demande locale, et qui est plus du raga, sound system, hip-hop... reggae, y a du rock de temps en temps, mais c'est pas la dominante. Donc, moi je les aime bien, c'est des amis, donc je vais quand même leur dire bonjour, mais souvent je leur dis bon alors, c'est quand le prochain concert rock.
Alors bien sûr, toi tu es comme la plupart des podcasteurs ou podcasteuses français, tu vis pas de ce que tu fais. Est-ce que tu rêverais d'un melting pot financé par, alors peut-être comme Luc, il espère à l'arrivée d'un mécène un jour. Est-ce que tu rêverais Ah ça, écoute.
Il l'a dit, hein.
Là, il a dit un, il me semble. Non, parce qu'en plus, à propos de filles, il est extrêmement déçu parce que la plupart de ses auditeurs, c'est des hommes. Et il n'a pas assez de femmes, il trouve. Ça lui fait beaucoup de peine, ça, je crois.
Moi, c'est mixte quand même. Moi, j'ai un peu tout, moi. C'est-à-dire que moi, j'ai mes copines qui me suivent dans l'histoire.
Ah, ouais. Ça, c'est triché, ça.
Ah non, c'est mes supportrices.
C'est ton fan club, quoi.
Voilà, c'est mon fan club de filles.
Alors, est-ce que tu rêverais d'un mécène qui te dise un jour, Annie, voilà, est-ce que tu veux faire Melting Pot à plein temps? Et donc pas vivre de ça, mais que ça soit subventionné pour pouvoir faire un melting pot et peut-être là sortir un peu de Marseille et puis aller à droite à gauche, ou tu veux rester à Marseille et tu veux rester comme il est actuellement.
Mais c'est-à-dire que moi j'ai donné comme ligne directrice de base, ça n'empêchera pas les exceptions, que c'est les groupes de Marseille et qui jouent à Marseille. C'est pour ça que donc, c'est quand même resté ouvert sur le monde, puisqu'il y a des gens du monde entier qui viennent jouer à Marseille. Donc je ne m'exclus pas de parler comme les Saints qui venaient d'Australie à l'origine, parce que maintenant ils sont à Amsterdam, mais qui sont des vrais melting pot dans le sang au niveau des musiciens qu'il y a dedans, de parler des gens qui sont étrangers qui jouent à Marseille. Mais quant à répondre à ta question sur être payé, c'était ma grosse discussion depuis 2 jours, parce que je commençais à être un peu épuisée, à vrai dire, parce que le rythme d'un podcast par semaine, comme je les conçois, ça me prend énormément de temps, donc ça a été au détriment de tout le reste. Il y a eu des ruages dans les brancards de mon entourage qui m'a dit « Bon, écoute Annie, maintenant, est-ce que tu penses que tu vas gagner ta vie avec ?» Parce qu'il faudrait quand même que tu te ressaisisses. Parce que moi, j'étais dans les Alléluia, le casque sur les oreilles toute la journée. C'est donc pas très agréable
pour l'entourage.
Pour l'entourage. Je crois que tu as vécu ça.
Oui, je vis un peu le même calvaire.
Voilà, je crois que tout le monde, tous les fanatiques de podcasting se retrouvent en crise à un moment donné. Et avec la question cruciale, si je passe tant de temps, est-ce que c'est normal que je le fasse bénévole ? Et donc, entre l'idée de soit j'abandonne, puisque c'était de me dire ça, soit je fais un compromis, c'est-à-dire accepter des sponsors, de la publicité, c'est ce que fait Mike justement avec le rock'n'roll, alcool, cigarettes, labels qui envoient des disques qui peuvent plaire ou pas, quoi. À un moment donné, on peut refuser, mais il faut bien en prendre quelques-uns quand même. Donc moi, tout ça, je me suis dit non. J'ai pas envie de ça, j'ai trop fait de j'ai toujours refusé les compromis dans ma vie professionnelle d'urbaniste, puisque mon métier c'est quand même ça. Et si je l'ai laissé un peu de côté, c'est parce que je supportais plus justement les compromis qu'on exigeait de moi et que j'ai jamais accepté. Donc je me suis dit peut-être trouver une autre voie. Donc à ce moment-là, dans le podcast, il n'était pas question que j'en fasse, sur la musique en tout cas. Mais je me suis dit peut-être que la voie alternative, c'est de faire un autre podcast d'une autre nature qui soit, lui, un podcast professionnel où je cherche à gagner de l'argent avec. Mais que ça soit l'idée de base au départ. Et je pense pas, enfin, en retournant la question, je pense pas qu'il soit possible que je gagne de l'argent avec Melting Pot, parce que moi, je m'amuse trop avec. Donc souvent, je suis à la limite de la limite de ce qu'on pourrait appeler des fois la décence. Donc quand je rencontre des gens très sérieux qui me disent « Ah, mais alors vous avez un site ?» J'ai peur de donner mes références. Je me suis dit, s'il tombe sur le podcast de la machine à coudre par exemple...
Et alors ce côté un peu trash, un peu décalé, ça tu l'entretiens, ça te plaît? C'est Annie, c'est toi ou pas?
C'est mon plaisir, oui. Non mais c'est ce qu'est la vie en général aussi. Je trouve que... Ce qui m'intéressait dans le podcast tout de suite, c'est que quand j'ai vu les Américains le faire, on en avait parlé de ça, les Américains, ils ont démarré le podcast en enregistrant tous les sons qui passent dans leur maison. J'ai entendu des gens qui déambulaient dans des drogueries, qui lisaient les prix des produits. Enfin, c'est parti tout azimut et j'ai trouvé ça surréaliste. Je me suis dit, mais c'est de l'art. Pour moi, c'est de l'art. C'est que on n'est pas dans l'informatif, on n'est pas dans la radio. On est dans un média sonore qui permet de faire une création aussi valable qu'une chanson. Et
là, tu rejoins tout à fait Sylvain Gire d'Arte Radio. Pour lui, c'est ça. C'est voilà. Un peu ça, c'est la création de son. Le contenu, il peut servir suivant les reportages, etc. Mais lui, c'est la forme, le machin, surprendre. C'est ça qui lui plaît pour Arte Radio.
Mais c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup la photo comme Luc. Et je disais que jusqu'à présent, je marchais dans la rue avec des appareils photo à la place des yeux. C'est-à-dire que sans arrêt, je me disais « Oh mince, quelle belle photo, j'ai pas l'appareil. Ah là, ça aurait été un bon cadrage. » J'avais l'impression vraiment d'avoir un objectif tout le temps collé sur la tête. Et depuis que je fais du podcast, j'entends les sons. C'est-à-dire je me dis « Ah ouais, ça aurait été intéressant. » J'entends une sirène de police, je me dis « Oh mince, j'ai raté la sirène.
» Tu te balades toujours avec ton micro et ton enregistreur.
Mais non, je ne l'ai pas encore fait ça justement. Oh là là. C'est-à-dire pour l'instant, j'en suis à « J'ai raté. » Parce que le mini-disc, ça fait 3 semaines que je l'ai, quoi. Donc ça fait... J'avais l'idée, mais je n'ai pas encore pu la réaliser. Et c'est vrai que marcher dans la rue, et je l'ai fait avec un petit enregistreur bidon qui était pas apte après à retransmettre le son sur un podcast, mais je marchais dans la rue avec ça dans la main et je prenais à la volée comme on mitraille des photos. Je marchais, des gens venaient à ma rencontre en parlant, je prenais les bouts de conversation, puis je continuais, je marchais au milieu des voitures, je prenais les sons des voitures. Je me suis dit bon, on verra, je sais pas ce que je vais en faire encore, quoi, mais c'est des enregistrements de sons. Après on peut les mettre en fond sonore d'une conversation ou de quelque chose. Donc c'est travailler la matière comme la peinture ou la sculpture, quoi. C'est une approche artistique du son. Et comme on n'est pas payé, qu'on n'a pas de chef qui nous donne un sommaire, un éditorial, un audimat à remplir, donc je pense qu'il faut garder cette liberté. C'est pour ça que quand les gens critiquent en disant « mais ton truc c'est bordélique », j'ai dit « et alors ?» Pourquoi il serait rangé ?
Il y a beaucoup qui sont bordéliques, hein, dans les Américains, Adam Curry... Très souvent, son podcast, c'est bordélique, quoi. Le micro, il marche plus pour l'invité. Les génériques, ils partent n'importe quand. Il y a des coupures parce qu'il oublie de parler. Je veux dire, mais par contre, là, Adam Curry, c'est 100 000 auditeurs. Et personne ne va lui dire, c'est bordélique, Adam. Il faudrait que tu fasses un truc plus carré, plus sérieux, machin. Peut-être en France, on reproche beaucoup ça. C'est toujours pareil. Je pense que c'est essentiellement les Français qui doivent te reprocher ça, non ?
Mais oui, c'est-à-dire que c'est le même problème que la langue. Quand une langue, on doit la parler parfaitement ou pas. C'est-à-dire qu'on s'interdit, on s'auto-censure de communiquer avec le monde si on n'est pas avec un anglais universitaire. C'est quand même insupportable, cette idée-là. Je trouve que l'important, c'est de communiquer. C'est un plaisir de rencontrer des gens de partout. Et quand on fait du son, on a acheté soi-même son matériel, on bidouille. Et je pense qu'on peut être beaucoup plus créatif, parce que moi, ce que j'aime maintenant, je m'en sers aussi de ça, c'est que on démarre une interview, il y a un petit moment avant le démarrage. C'est des choses dans les films, on les coupe. Mais il y a même des metteurs en scène dans les films comme Fellini qui ont montré le tournage, l'histoire du film se termine et d'un coup il fait un élargissement de plan sur l'équipe de tournage. Ça fait un choc. Vous avez 2 heures qu'on regarde son film, on est dans l'histoire, on est au Moyen-Âge et d'un coup bam, on voit tous les caméras, les micros, etc., les bus avec les caravanes, quoi. Bon, mais c'est son plaisir. Et je trouve que dans le podcast, des fois, on peut faire pareil. C'est-à-dire que les avant, les après, moi, je garde quand je demande aux gens, fais-moi un ID en me disant, tiens, dis que t'écoutes Melting Pod. Alors, il se plante, il recommence, je mets tout.
Mais faut pas se planter avec toi.
Oui, je garde tout. Mais les scènes, ils m'ont pas donné de réponse, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des gens qui les ont interrogés sur la préparation du concert. Il y a Chris Bailey qui m'a parlé de savoir s'il y a quelqu'un sur scène qui va venir s'occuper de sa guitare, s'il casse une corde, et qu'est-ce qu'il va faire pendant le temps qu'il aura cassé une corde pour pas casser le show. Et moi, je faisais pas vraiment attention, mais j'avais pas envie de couper le micro parce que je savais pas à quel moment j'allais reprendre l'interview. Du coup, j'ai tout gardé. Et quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais c'est intéressant. Enfin, je pense que de voir qu'une rockstar, malgré tout, elle a son moment de stress avant le concert et qu'elle a des choses aussi simples que casser une corde parce qu'ils sont venus en avion, ils n'ont pris qu'une guitare, qu'ils sont que 3 alors que d'habitude ils sont 4 et qu'après 30 ans de carrière, il se dit, oh, faut pas que je casse le show, qu'est-ce que je vais faire ?
Combien de concerts en 30 ans ? Parce qu'il c'est un habitué des concerts.
Ah bah oui, mais c'est 30 albums, c'est le monde entier, quoi. C'est avec des hauts et des bas, parce que c'est aussi un personnage assez rebelle, bien qu'il s'en défend. Mais quand il est arrivé d'Australie, il est arrivé en 77 à Londres, acheté immédiatement par EMI, comme disent les Anglais. Et il a démarré le mouvement punk avant les Sex Pistols et les Ramones, donc c'est quand même historiquement un pionnier du punk. Et quand il est arrivé à Londres, il était invité partout comme vraiment une très grosse superstar. Et il a envoyé tout le monde péter quand on lui a dit, mais les punks, ils ont des petits blousons serrés en cuir avec des aiguilles et des plingues à nourrice dans les oreilles. Lui, il s'est laissé grossir, il a bu, il s'est laissé pousser les cheveux. Il a dit, j'en ai rien à faire, cassez-vous. Et la maison de disque l'a viré. Donc il a eu une très grosse chute. Et après, il s'est retrouvé à faire des petites salles, puis il est reparti sur des grandes scènes. C'est vrai qu'à Marseille, au Poste à Galène, c'était quand même considéré comme une petite scène pour lui.
C'est assez petit, le Poste.
Voilà, mais lui, il disait, je m'en fiche, c'est pas ça qui m'intéresse, quoi. Mais ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Et dans des petites salles comme ça, j'ai des contacts avec les gens qui sont chaleureux. À Saint-Étienne, c'était en plein. C'est un Saint-Bonnet-le-Château, c'est un petit village que je connaissais pas, mais je connaissais le village d'à côté par un hasard de relation, mais c'est très 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 petit. Mais il y a une équipe de fous furieux de musique qui fait tous les ans un festival de 3 jours de concert, 13 groupes, et ils montent dans le village une scène géante, qu'on entend à des kilomètres à la ronde, tellement les haut-parleurs sont géants. Et ben là, dans cette situation, je l'ai vu jouer sur une grande scène où, en étant au pied de son micro pour enregistrer le concert, je voyais que dans son regard, bon, on est obligé de regarder loin et on ne peut contacter personne. Il n'y a pas de personnalisation, quoi. C'est une masse, une foule, et on parle à une foule, mais...
C'est notre ambiance.
Voilà, c'est notre ambiance. Je pense que c'est rassurant pour un musicien de savoir qu'on déplace du monde, mais je pense que c'est bien aussi, les petites salles, pour eux aussi.
Ça sera un peu plus jouissif.
Ben, en tout cas, tu as un contact direct avec les gens. Moi, je sais que quand je suis arrivée sur scène du Poste à Galène, j'étais collée dessus parce que je voulais prendre des photos. Et quand ils sont rentrés en scène, je les avais à un mètre. Donc obligatoirement, tu vois, les regards qui se croisent. Et tu vois, moi, dès les premières notes, tchou, j'ai craqué complètement. Je me suis dit, waouh, c'est exactement la musique que j'aime. Donc après, il y a eu une petite relation qui s'est déjà créée à ce moment-là, tu vois, sur le fait que je voyais que lui, ça lui faisait plaisir de voir que les gens souriaient. Tous les gens que je regardais autour de moi, tout le monde avait un sourire scotché aux oreilles, quoi. C'était un grand moment de plaisir. Je pense pas que sur une grande scène, de loin, tu vois, si les gens sourient ou pas, quoi, c'est une masse. Non, mais c'est...
Alors, on va retomber dans les questions plus bateaux, on va revenir sur le podcasting. Alors, c'est une question habituelle. Je suis désolé, hein. Le PodMag, il a un cadre, lui. Ah. Et puis on va aller... Bon, c'est pas forcément... la meilleure chose qui existe, hein, mais il a un cadre. Alors, il faut revenir sur les questions qui sont liées au podcasting. Est-ce que tu as des podcasts francophones que tu écoutes? Alors francophones, je sais que toi tu es fan de certains podcasts anglophones, tu l'as dit, mais francophones?
Ben, honnêtement, c'est pas que j'y mets de la mauvaise volonté, mais c'est un problème de temps, hein. Donc je suis restée calée sur les premiers du départ, c'est-à-dire que j'écoutais le podcasteur et Luc Santelli, le audioblog. Et j'ai pas eu la curiosité après, quand j'ai vu sur iTunes d'un coup, parce que moi, quand je me suis renseignée de savoir qui existe dans le podcast français, il n'y avait pas 40 000 personnes. Donc, il y avait Incipit, blog aussi, point blog. Et lui, quand je l'avais lu son histoire, je m'étais dit, tiens, dès que j'aurai ma carte son, je vais lui enregistrer une page de son livre parce que je trouvais l'idée très intéressante. Puis, je ne l'ai jamais fait. Et puis, j'ai vu qu'il y avait le pot au feu, des gens comme ça, mais qui faisaient déjà... de la musique sur internet, donc ils ont basculé sur le podcast sans que ça soit vraiment peut-être du podcast, je sais pas. Mais là c'est sur iTunes, je me suis dit, mais tiens, il y a plein de gens du coup qui se sont révélés depuis quelques mois, je les ai pas vus, quoi.
Alors iTunes, c'est pas non plus le podcasting francophone, c'est quelques sites qui ont été sélectionnés on sait pas comment, en fait. C'est une toute petite partie, c'est une douzaine ou peut-être maintenant une quinzaine de sites de podcasts francophones.
Ils sont tous, parce que visiblement il y a un iTunes France. Nous, ce qu'on reçoit, c'est iTunes France, voilà. Et ça, je trouve ça complètement stupide, parce que d'un coup on est presque cloisonné par pays.
Alors, oui, mais les podcasts français, ils sont écoutables partout dans le monde, hein.
Oui, mais cela dit...
Le classement est francophone. Voilà. Enfin, même pas francophone, il est français.
Voilà, il est français, parce que moi, quand j'ai demandé un coup, d'un moment donné, ça m'est venu à l'esprit. Je dis à Mike, mais envoie-moi ta première page d'accueil d'iTunes aux États-Unis. Et il m'a fait une copie d'écran. Il n'y a absolument aucun podcast que je connais qui est sur cette page d'accueil. Et d'après ce que j'ai entendu, ce sont que des radios.
C'est que les radios. Ouais, c'est toutes les grosses radios, toutes les grosses télés, CNN, ABC, NBC, tout ça, qui sont dans les premières places.
Et lui, il laissait supposer qu'il y avait quand même un élément bizarre. C'est que le premier jour de l'ouverture d'iTunes au podcast, toutes ces radios avaient leur tag sur leur feed compatible avec iTunes, alors que la plupart des podcasteurs ont galéré 2-3 jours pour comprendre comment ça marchait. Donc ils se disaient qu'ils avaient l'air drôlement préparés, ils sont arrivés d'entrée dans les premières places, il y avait une histoire pas très catholique, quoi. Je sais pas.
C'est un mystère. Peut-être qu'un jour Apple acceptera une interview. Ça fait 15 fois que je leur demande.
Mais moi je pense que... Par rapport à la manière dont ça se passe, que je trouve assez déplaisante quand même, parce que si mon podcast est bordélique, ils sont vraiment encore plus bordéliques que moi, je trouve. Et pourquoi accepter ça? Je veux dire, comment ça se fait qu'il y a personne qui a l'idée de prendre à son compte un portail pour faire la même chose, mais de façon plus intelligente? Parce qu'en ce moment, je trouve qu'elle est vraiment stupide, cette façon de faire. Et de réagir par rapport à ça, de dire le podcasting, c'était quand même un mouvement indépendant, c'était quand même des gens qui passent de la musique qu'on n'entend pas ailleurs, c'est des gens qui mettent leur trip sur la table pour pas un sou. Je vois pas pourquoi on est mélangé avec des multinationales, quoi, qui en plus prennent le haut du pavé. C'est pas normal.
Et alors c'est peut-être parce que aussi Apple ou les Audible, Odeo, tout ça, c'est des sociétés commerciales et elles rêvent de gagner de l'argent avec. Et elles gagneront pas d'argent avec Melting Pod, parce que toi tu veux pas en gagner avec Melting Pod. Elles en gagneront sûrement avec CNN, avec ce genre de podcast.
Sauf que dans ce que j'ai compris, l'histoire des tags, c'était quand même pour que repérer, si toi tu passais de la musique avec qui était répertoriée sur iTunes, le tag permettait de faire le lien direct avec la musique que tu passais et donc aux auditeurs d'acheter la chanson en question sur iTunes. Moi je pense que l'idée n'était pas idiote. Et y a un côté découverte qui est présent dans l'histoire. Et si on reste avec des radios et des multinationales qui passent la musique, qui passaient déjà à la radio, enfin, je pense pas que les gens ils vont changer leur habitude, puisqu'ils ont déjà acquises. Le podcast permettait de les changer, ces habitudes. Il permettait de casser quelque chose, de réveiller les gens, parce qu'on leur faisait écouter quelque chose de nouveau. Une radio, enfin, je sais pas, il suffit d'interroger les gens. Tu fais un tour de table. Que pensez-vous de la radio en France? Ils n'écoutent pas. Que pensez-vous de la télé en France? Moi, je ne l'écoute plus. Les médias, ils ont trop déçu.
C'est pour ça que le podcasting, s'il évolue dans le sens des grands médias, ça ne servira à rien.
Ça sera sa perte.
Ouais. Et par contre, s'il propose une autre vision, une autre façon de faire, autre chose, c'est pour ça que je conseille le plus possible de ne pas copier ce que vous entendez à la radio, de ne pas copier ce que vous voyez à la télévision, d'essayer de trouver des formats, des concepts différents, des façons de parler, de ne pas hésiter à parler avec ses tripes, avec sa façon de parler, et de ne pas essayer de formater au maximum pour que ça soit... faut pas rechercher l'audience, en fait. Moi, on recherche l'audience, certainement, on en gagnera plus.
Oui, ça, je suis persuadée, de toute façon, que c'est le nivellement par le bas de chercher l'audience, parce que, de toute façon, on se pose toujours la question de qu'est-ce que les gens aiment, mais personne n'en sait rien. Et moi, je pense qu'il faut d'abord... dans la mesure où on reste des travailleurs non payés, je pense qu'il faut faire ce qu'on aime, quoi, ce qu'on a envie de faire, et pas se poser plus de questions. Bon, le format le plus original possible. Moi, je pense quand même que ce serait intéressant qu'il y ait un regroupement de gens issus de la même mouvance d'idées. C'est toujours pareil, on a toujours plus de poids si on est ensemble, quoi. C'est pour ça que bon, la polémique sur le podcast en France, quand on est trois chats malades, c'est ridicule. Donc je pense qu'il vaut mieux relier les forces de tous les gens dans tous les domaines, essayer de faire peut-être un petit groupe français, puis se relier avec un groupe américain, avec un groupe anglais, un groupe allemand, et travailler en dehors des circuits d'iTunes, de iPodder, de Podshow. Non, chacun cherche à gagner l'argent comme il peut. Bon, moi, je pense que si je le cherche, ça sera plus en relation avec mon travail de base. On n'a pas développé ça tout à l'heure, mais c'est vrai que quand tu posais la question « comment tu vois les choses ?», je pense que je vais chercher à relier le son à l'urbanisme. Moi, dans mon travail, je rends des rapports avec du texte et des photos, et beaucoup de gens se lancent dans la vidéo. Moi, je me suis dit, le son, ça a un autre intérêt que la vidéo, parce qu'on est trop accaparé tout le temps par l'image. Donc, on devient trop facilement passif avec l'image. Et le son, ça éveille des sens. Justement, on est obligé déjà de reconfigurer l'image. Quand on entend un son, on se dit dans quelle situation c'était. On se fait un petit spectacle. C'est comme quand on lit un livre, quoi. On imagine les personnages. Quand on donne un son, on essaie d'imaginer l'environnement. Là, je ne sais pas ce que les gens pensent.
Et c'est quoi le podcast que tu rêverais en francophone, là? Toujours pareil. Moi, je reste un peu dans le francophone. Je suis désolé, je sais que toi, tu es vachement ouverte sur l'international, que tu proposes ton podcast en anglais exprès parce que tu ne veux pas te limiter à la France ou à la France ou aux pays francophones. Mais si tu devais écouter un podcast en français qui n'existe pas et que tu aimerais avoir, c'est quoi? Un melting pot en français?
Moi, je sais pas, pour rester... Enfin, toi, tu dis francophone, donc c'est la question. Mais mon podcast idéal, moi... J'aimerais aller dans quelque chose d'abstraction. Dans l'abstraction comme en peinture. C'est-à-dire me dégager de plus en plus de l'anecdote, de l'interview, de choses informatives, pour aller dans l'abstrait. L'abstrait du son. Donc l'abstrait du son, on dirait qu'il est francophone parce qu'il pourrait y avoir quelques paroles en français, mais ce ne serait pas très important parce que c'est comme Godard quand il fait des films et les gens sortent en disant qu'il n'y avait pas d'histoire. Ben oui, il n'y avait pas d'histoire au sens d'une anecdote avec un début, une fin, mais son film raconte quelque chose. Simplement, l'histoire, il faut la trouver ailleurs que dans une histoire classique. Donc dans un podcast sur le son, il pourrait y avoir une histoire qui ne serait pas obligatoirement... Ah, ma copine anglaise, ouh. Elle m'a pas encore fait son ID en anglais, parce qu'elle me dit qu'il faut d'abord que j'écoute, tu vois. Ça fait 6 mois.
Elle veut écouter avant de le faire.
Oui, elle veut être honnête, les Anglais, tu vois. Elle me dit non, je vais pas dire j'écoute Melting Pot si je l'ai pas écouté. Mais est-ce que tu peux me le faire, toi?
Tu veux que je fasse Ben oui, je vais te le faire, mais en anglais, il faut que je le fasse alors.
Et tu me le fais dans deux langues.
Ah, dans deux langues.
Alors. Qu'est-ce que tu parles le mieux?
Ah, le français.
C'est ta première langue? Je ne le crois pas, tu n'es pas marseillais alors.
Non, c'est... Oh là là, non, mais c'est-à-dire que...
Toi, tu es né où, par exemple?
À Marseille.
Tu es né à Marseille?
Oui, je suis né à Marseille. Alors, c'est très compliqué, moi, parce que j'ai un père qui est belge, enfin, franco-belge, une mère qui est italiano-argentine.
Ah, voilà, donc, un melting pot.
Voilà, exactement. Alors, moi, je suis l'exemple même de melting pot, parce qu'en plus, si tu cherches, il y a des Autrichiens, des Espagnols, enfin bon, des Indiens d'Argentine.
Ouais.
Donc, c'est vraiment le melting pot.
Ah, mais c'est parfait.
Par contre, non, j'ai des défauts, je parle ni l'espagnol ni l'anglais.
Et même pas l'argentin?
Et non, très mal.
Italien?
Mais non, mais je vais bien essayer de te faire un truc.
Ouais.
Mais il va me falloir un peu de temps là.
Comment? Pas en direct. Là.
Et tu le veux en quoi? En anglais et en espagnol?
Bah, tu peux le faire en français si tu le
voilà. Sais. Non, mais je vais le faire en français. Je vais tenter de te faire un truc en anglais aussi.
Ouais.
Alors, donc il faut que je me présente.
Ouais.
Et que je dise que j'écoute
Melting Pot. D'accord. Avec Annie de Marseille.
Oh.
Et tu peux dire Julien de Marseille aussi, c'est bien.
Bah oui.
Ce sera une première.
C'est une première.
Non, c'est pas une première, j'ai déjà eu. Ça fait rien.
Bah alors, c'est. Bon, on va commencer. Hein. C'est, tu sais que moi, ça me fait beaucoup. Ça me traumatise un peu ce que tu viens de me dire. De faire ça. Ça me fait plaisir de te le faire. Mais... Alors, bon, salut, c'est Julien de Marseille. Alors, j'ai le podcast. Le Podmag, et je suis heureux d'avoir rencontré Annie, que j'écoutais avec son podcast Melting Pod, et à qui je conseille d'écouter à tout le monde Melting Pod, absolument, même si on n'aime pas le rock, même si on aime, faut écouter, ne serait-ce que pour la belle Annie. Alors maintenant, il faut que je le fasse en anglais.
Ouais.
Hello, I'm Julien of Marseille, my podcast is France Podcast, and I listen to Annie, the beautiful Annie of Melting Pod. Melting Pod is a very, very good podcast. It's okay?
From the whole planet.
Oh, whole planet? for the universe?
Universe.
Universe. It's okay.
Thank you.
Bon, c'est un peu pourri. Sorry, sorry.
Ça fait plaisir que tu sois de Marseille avec tous ces sons mélangés. Donc, tu vois, tu corrobores. Pour parler bien français, exactement ce que je dis sur Marseille. Quoi.
Ah non, mais ce que tu dis sur Marseille, c'est totalement ma vision de Marseille, et je crois que c'est la vision correcte de Marseille. Et que je pense que beaucoup de gens qui parlent de Marseille ne sont pas marseillais, n'habitent pas Marseille, et ne connaissent pas cette ville. Et c'est une ville qui... Alors, je vais te raconter une anecdote qui est un peu catastrophique, doublement catastrophique. Je suis monté à Paris voir ma nièce qui est née il y a un mois. Et donc, je suis allé voir mon grand frère à Paris. Et j'ai été doublement déçu. Pas par ma nièce qui est magnifique, pas par mon grand frère ou sa femme. C'est que d'abord, j'ai eu le droit d'avoir une interview dans Radio-Canada. Et quand j'ai écouté le résultat de l'interview, c'est pas, bon, ce que je racontais n'est pas forcément très intéressant, on s'en fout un peu. Mais ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que le journaliste, je lui ai dit que j'étais de Marseille, mais que j'étais à Paris. Et donc quand il m'a interviewé, j'étais à Paris. Et il a dit Julien de Paris, de France Podcast à Paris. Ça m'a fait beaucoup de peine déjà. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai pris le taxi, je suis tombé sur un Parisien de base. Qui pour lui, Marseille, c'était l'Olympique de Marseille. Alors ce qui est bien, bon, on ne peut pas nier l'OM à Marseille, mais il n'y a pas que l'OM. Hein. Et que je lui ai expliqué, enfin j'ai tenté du moins, de lui expliquer que Marseille, c'était une ville qui avait 2600 ans d'histoire, et donc qu'il y avait au niveau architectural, au niveau culturel, des choses hallucinantes à Marseille. Et lui, il a dit, ah bon, je croyais qu'à Marseille, il n'y avait que des souks. Donc c'est quand même une vision assez limitée de Marseille, et en plus je trouve que ce qu'il appelle d'être des souks, bon moi j'en ai pas vu, pour connaître les souks, les vrais souks, ça ressemble pas vraiment à des souks, mais à mon avis il a jamais quitté Paris, et ensuite...
Moi j'emmène tous les étrangers que je rencontre, enfin parce que moi je suis très multi aussi dans ma vie, c'est-à-dire que... Je suis tout le temps avec des Allemands, avec des Anglais, avec des gens qui arrivent de partout. Mon copain, il travaille pour l'Europe. Donc là, en ce moment, il y a des Hongrois, des Roumains. Je les amène à Noailles.
Oui, mais ça fait partie... Le quartier de Noailles avec la gare, l'ancienne gare, etc. Je veux dire, c'est des quartiers incontournables à Marseille. Au niveau des odeurs, au niveau des bruits, au niveau des cultures, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est Les étrangers, pour eux, Marseille, ça doit ressembler à la Corniche, à la Pointe Rouge. C'est pas Marseille, c'est pas le mélange culturel.
Les Américains qui avaient fait l'article en disant qu'ils étaient très déçus sur Marseille, ils disaient on croyait arriver dans la French Riviera avec des casinos, il fallait être habillé comme James Bond pour entrer. Je me suis dit, mais c'est pas la Côte d'Azur, Marseille. Ils se sont trompés d'endroit, c'est tout.
C'est particulier.
Ouais, c'est de Cannes, de Nice, de Monte Carlo, mais c'est pas Marseille. Hop là. Ils sont mal. Je te fais ça sur le truc blanc, tu es mort là. Il est pas beau lui comme Marseillais. Hein.
Bonjour.
Hein. Dis un mot sur Front Podcast.
Allez, à plus. Qui c'est ça?
C'était ton maison, sa glace sur le dos.
Qui c'est Front Podcast?
Un podcast. Qu'est-ce que c'est un podcast? Une radio.
C'est pas le Marseillais, ça.
Non, si, c'est un peu Marseillais, on est Marseillais.
On est Marseillais tous les deux.
Ouais, mais c'est pas les bons Marseillais, ça.
Comment les bons?
C'est pas du Marseillais, broadcast, j'ai rien compris.
Podcast,
voilà,
c'est pas du podcast, c'est pas.
Il faut trouver un mot marseillais, alors.
Ah ouais.
Bah, c'est de la radio sur internet, en fait.
D'accord.
Il y a à peu près entre 5000 et 10 000 personnes qui vont vous écouter, alors...
Putain, ils ont que ça à foutre.
C'est formidable.
Bon, moi, je t'agglace. Bon, alors, tu me racontais l'histoire de ta nièce.
Et voilà, et donc j'ai été hyper... c'est pas ma nièce, mais ça m'a un peu traumatisé en me disant... si c'est ça l'image qu'ils ont de Marseille, ça fait beaucoup de peine, quoi.
Mais par contre, c'est vrai, il a raison, t'as pas l'accent, toi.
Non, alors c'est normal, hein, avec une mère argentine et un père parisien, parce que bon, il est franco-belge, mais il est de Paris.
Ah,
et il y en a aucun des deux qui ont l'accent.
Et à l'école.
Mais j'ai fait du théâtre 10 ans, et donc pendant 10 ans, on m'a déstructuré mon accent, et donc c'est un grand drame pour beaucoup. Je n'ai pas l'accent marseillais. Enfin, pas trop. Enfin, ouais. Pas vraiment, en fait.
Un peu dommage, parce que c'était la conversation que j'ai avec ma copine hier soir, qui me disait, mais pourquoi tu devrais avoir un accent anglais en parlant anglais? C'est drôlement bien, les gens qui ont leur accent de base en parlant une langue étrangère, c'est ce qui fait la diversité. On n'a pas à être des robots et à parler sous... Alors c'est vrai, quand ça nuit à la compréhension, c'est gênant. Parce que c'est vrai, des fois, on a l'impression qu'on parle anglais et les gens vous regardent les yeux étonnés en se disant « Mais qu'est-ce qu'elle dit ?» Et dans l'interview que j'ai fait des Espagnols à Saint-Étienne, je ne savais pas s'ils parlaient anglais ou espagnol. Eux, ils parlent anglais avec l'accent espagnol. Donc, des fois, c'est un peu gênant. Mais c'est quand même c'est joli de garder sa voix. Donc, je te conseille... pour ton podcast, de retrouver ton accent marseillais de base, de l'école primaire ou de la crèche, parce qu'à la crèche à Marseille, avec les tatas, normalement un enfant, c'est impossible qu'il ne prenne pas l'accent marseillais à la crèche ou à l'école maternelle.
Bon, Annie, on va terminer cette interview.
63 minutes.
Alors, c'est le problème, c'est qu'elle fait 63 minutes. Oui, 63 minutes. Ah, tu as explosé le record de Luc. C'est problématique.
C'est ça que je voulais.
Voilà. Alors, tu es la première à l'avoir explosé. C'est une catastrophe pour tout le monde. Et le problème, c'est que je ne sais pas ce que je vais pouvoir couper. Alors, certainement mon ID. Je vais le couper. Mais
c'est pour moi.
Parce que c'est un peu pour toi. Mais je ne sais pas ce que je vais couper d'autre. Alors, ça fera peut-être 60 minutes parce que j'ai fait une ID un peu longue.
Il y a des choses où on a bafouillé, non?
Ah, écoute, je ne sais pas. Est-ce que c'est grave, bafouillé et répété?
Ah, ça y est, tu deviens melting pot. J'ai explosé ton cadre.
Je te remercie beaucoup. Je t'embrasserai.
Moi.
Pour cette interview. Et puis on peut t'écouter sur melting pot.
Ah, dis le compte, www, je ne l'ai jamais dit en français.
www.
Ouais. Meltingpot.com.
Merci Annie, à bientôt.